France Inter.
Aujourd'hui, l'intelligence des araignées, racontée par...
Raphaël Janson, éthologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
On les croyait rampantes, tapis dans l'ombre, limitées à leur toile en coin de plafond ou suspendues aux herbes des talus, mais les araignées discrètes, tisseuses de pièges, cachent un talent méconnu. Certaines savent en effet voler. Pas d'ailes, pas de bourdonnement, pas de magie, juste un soupçon de science et beaucoup d'électricité. Tout commence lorsque l'araignée grimpe patiemment au sommet d'un brin d'herbe, d'un poteau ou d'un buisson, et là-haut, elle se fige un instant comme une ballerine en équilibre, dressée sur la pointe de ses pattes. Lentement, elle lève l'abdomen vers le ciel, libère de longs fils de soie, des mètres parfois, une sorte de montgolfière invisible. Longtemps, on a cru que seul le vent suffisait à l'emporter, mais le mystère subsistait. Pourquoi ces décollages avaient-ils lieu par temps calme, presque sans brise? Pourquoi certaines araignées semblaient-elles jaillir du sol comme projetées? Même Darwin, en 1832, avait été intrigué par des essaims entiers de minuscules araignées rouges ayant envahi son navire, le Beagle, à des kilomètres au large de l'Argentine. Inexplicable, écrivait-il. Aujourd'hui, la science apporte une réponse étonnante. En 2018, des chercheurs de l'université de Bristol ont découvert que ces araignées détectent les champs électriques naturels de l'atmosphère. Car la Terre, traversée chaque jour par des milliers d'orages, est en réalité un immense circuit électrique. Le sol est chargé négativement, l'atmosphère positivement, et entre les deux, une tension invisible, mais bien réelle, qui parcourt même les journées les plus ensoleillées. Les pattes des araignées, couvertes de minuscules poils sensibles, réagissent aux variations de ce champ. Quand l'électricité dans l'air augmente, eh bien ces poils se dressent, un signal. L'araignée sait que le moment est venu. Elle libère alors ses fils de soie qui se déchargent électrostatiquement, se repousse du sol et l'aspire littéralement dans les airs. En laboratoire, les chercheurs ont reproduit ce phénomène. Des araignées enfermées dans des boîtes sans courant d'air se sont envolées sous l'effet des champs électriques simulés. Lorsque les chercheurs les désactivaient, les araignées retombaient aussitôt. Certaines montent à plusieurs kilomètres d'altitude, d'autres se sont retrouvées à plus de 1500 km en mer. Le monde devient alors un vaste tapis volant pour ces voyageuses insoupçonnées. Loin des clichés, les araignées ne sont pas seulement les tisseuses de la peur, elles sont aussi les funambules de l'invisible, capables de déployer toute une gamme de stratégies prodigieuses qui témoignent d'une intelligence adaptative qui force l'admiration. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Raphaël Janson.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Humaine Science Dans la tête d'une araignée. Vous connaissiez évidemment cette histoire d'araignée,
oui,
qui vole, vous la racontez même.
Oui.
Ça a été un mystère pendant très longtemps alors.
Et oui, on a pensé pendant longtemps que seuls les courants d'air suffisaient à propulser les araignées pour se disperser, jusqu'à ce que cette étude mette en évidence, comme vous l'avez mentionné, le rôle du champ électromagnétique terrestre.
Ouais.
Et de façon assez poétique, on appelle ces essaimages les fils de la d'ange.
Oui, absolument. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter sur cet animal qui suscite encore beaucoup de réactions contrastées de la part du public?
Alors, il faut vraiment démystifier les araignées. Beaucoup de personnes les redoutent, les craignent. Et c'est une réputation qui est tout à fait infondée, injustifiée. Donc, on a plusieurs chiffres qui permettent de redorer un peu le blason des araignées. Un qui est assez révélateur, moins de 10 personnes décèdent annuellement d'une morsure d'araignée sur la planète.
Mmh.
Donc, la probabilité d'être mordu est relativement faible. Et les envenimations sévères sont extrêmement rares.
Oui, parce qu'il y a du venin chez les araignées, chez toutes les araignées d'ailleurs ou pas?
Alors il existe environ 53 000 espèces d'araignées, dont la quasi-totalité dispose de glandes à venin, donc par définition, toutes les araignées sont venimeuses.
Oui, mais pas toutes dangereuses, loin de là donc.
Pas toutes dangereuses, elles ont toutes donc ce venin qui va avoir pour fonction principale d'immobiliser les proies,
mm-hmm,
et seules quelques araignées peuvent infliger des morsures qui peuvent être douloureuses pour l'espèce humaine.
Ouais. Vous êtes spécialisé donc, Raphaël Janson, dans l'étude des différentes formes d'organisation sociale chez plusieurs espèces d'arthropodes dont font partie les araignées. À quoi on reconnaît d'abord un arthropode ?
Les arthropodes, ce sont toutes les bestioles qui ont une carapace, un squelette externe et des pattes articulées. Donc c'est l'immense majorité des espèces animales qui sont actuellement connues sur la planète.
Ouais. Et dans les arthropodes, on trouve les insectes, dont ne font pas partie les araignées.
Les araignées ont 4 paires de pattes, les insectes n'en ont que 3. Et on a d'autres différences morphologiques, hein, par exemple la présence d'antennes chez les insectes qui sont absentes chez les araignées.
Ouais, ça c'est la différence majeure finalement.
C'est une des différences majeures entre les insectes et les araignées.
Les araignées, oui. Combien d'yeux chez les araignées?
Ça varie, mais généralement 4 paires d'yeux.
Ouais. Est-ce qu'elles produisent toutes de la soie?
Alors, toutes les espèces d'araignées, au cours de leur cycle vital, que ce soit les mâles ou les femelles, font usage de la soie, dans des proportions qui sont différentes. Certaines vont développer, vont tisser des pièges soyeux, donc des toiles pour capturer les proies. D'autres vont chasser à l'affût. Mais quelle qu'elle soit, à un moment de leur vie, elles vont utiliser la soie pour se déplacer ou pour pondre le cocon pour les femelles.
Ouais. Ce sont les seuls animaux à le faire, ça, ou pas?
Il y a d'autres espèces d'insectes qui vont tisser des fils de soie. On peut penser, par exemple, à la chrysalide, la chenille du papillon, ouais, qui va faire une coque de soie dans laquelle va s'effectuer la métamorphose. Donc, la production de soie n'est pas la particularité, la spécificité des araignées.
On en reparlera évidemment du fil d'araignée. On revient un petit peu quand même sur l'origine de l'arachnophobie, hein, cette peur des araignées. Et pour en parler, on va écouter cet extrait de Knock de Guy Lefranc. C'était en 1951.
Représentez-vous un crabe ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sucer et de vous déchiqueter doucement la cervelle.
Il y a de quoi, c'est une mère d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée.
Voilà, et pour beaucoup de personnes, c'est le dernier degré de l'épouvante, d'ailleurs, l'araignée, lorsqu'elle passe. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses cultures, cette peur de l'araignée?
Elle est surtout ancrée dans les civilisations et les cultures occidentales. Il y a d'autres pays pour lesquels les araignées sont vénérées. Elles vont représenter un symbole de liberté ou un moyen de communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, c'est surtout dans la civilisation occidentale, européenne notamment, que la peur des araignées est la plus saillante.
Ouais, il y a des enquêtes là-dessus, hein, très précises.
Alors, il y a plusieurs études, oui, qui ont essayé de documenter les sources de l'arachnophobie, qui ont essayé d'étudier un petit peu ce qui, chez l'araignée, générait cette peur. Donc, généralement, ça suscite du dégoût. Mais cette peur des araignées est ancrée depuis plusieurs siècles dans d'autres cultures.
Mais c'est quoi alors les sources exactes de la phobie en fait? On a peur de quoi exactement?
Alors c'est certainement une transmission culturelle, donc il y a une peur sociale qui se propage dans les familles de génération en génération. Et c'est difficile, il y a plusieurs interprétations possibles pour expliquer cette arachnophobie, mais qui n'est évidemment pas basée sur des faits réels, à la différence des serpents par exemple, pour lesquels là il y a une réelle peur des serpents qui est instinctive, cette capacité que l'espèce humaine a à détecter des serpents, ce qui n'est pas le cas pour les araignées.
C'est pas inné alors? Ça veut dire
pour l'espèce humaine, non, la peur des araignées n'est absolument pas innée. Elle est transmise socialement et certaines études ont montré, par exemple, chez des primates non humains, chez des singes, que les singes réagissaient de façon tout à fait équivalente entre une araignée et n'importe quel type d'objet animé.
Alors les araignées, donc on le disait, sont très peu dangereuses pour l'humain. Elles ne piquent pas d'abord, elles mordent, hein, c'est ça?
Elles mordent, elles ont des crochets à l'avant de la tête qui leur permettent de mordre.
Ouais, et donc c'est ça qui crée la mort quand il y a effectivement transmission du venin?
Voilà, en fait, par
dans
ces
les rares
crochets,
cas où ça se passe comme ça.
Se diffuser les molécules du venin qui vont avoir leur action létale chez les proies dont elles consomment.
Mais alors, vous racontez que cette peur, elle remonte assez loin, hein, parce qu'on peut alors aller quasiment à l'Antiquité, mais même au Moyen-Âge, il y avait des assimilations, en tout cas entre l'araignée et l'animal porteur de peste, c'est ça? Pendant longtemps, il y a eu cette idée?
Alors oui, on a pensé pendant longtemps au Moyen-Âge que les araignées étaient responsables de la propagation des épidémies de peste.
Ouais.
Et dans certains bestiaires du Moyen-Âge, on peut voir aussi des analogies entre l'araignée et le diable. L'araignée qui est au cœur de la toile, comme le diable, essaye de prédater l'âme humaine, et que la toile d'araignée serait l'ensemble des tentations auxquelles l'espèce humaine est confrontée, l'objectif de l'araignée étant de se saisir de l'âme humaine.
Et donc,
ça a participé à cette mauvaise réputation des araignées depuis...
Jusqu'à ce que la réalité de la peste soit établie.
C'est à la fin du 19e siècle que les élèves de Pasteur ont mis en évidence l'existence du bacille de la peste et du rôle de la puce du rat dans la transmission de la peste, et qu'à ce moment-là, on s'est bien rendu compte que les araignées n'étaient pas responsables des épidémies.
Ouais. Il y a cette transmission qui est un peu problématique finalement sur l'animal, parce que les parents transmettent beaucoup la peur aux enfants, ça c'est quelque chose qu'on peut observer facilement, et donc ce qui fait qu'il y a vraiment une peur du contact même avec l'animal.
Oui.
On est dans cette distance permanente.
Oui, c'est ça, souvent. Les araignées créent une certaine répulsion, une révulsion, et elles inspirent le dégoût. Donc si depuis tout petit on voit les parents qui vont avoir des réactions un peu vives à vos araignées, forcément ça va se transmettre de génération en génération, ce qui n'est pas une bonne chose.
Qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire d'ailleurs, Raphaël Janson? Est-ce que vous en élevez, vous, des araignées ou
Alors,
pas?
Alors nous, on s'intéresse à une espèce d'araignée qu'on trouve aux alentours de Toulouse, et on s'intéresse surtout au comportement des juvéniles, les jeunes araignées qui sont sociales, et on s'intéresse à la socialité des araignées, dont on reparlera peut-être plus tard.
Absolument, oui.
Et donc voilà, nous on s'intéresse au caractère social de l'araignée. araignées à ses plus jeunes stades de développement.
Donc vous élevez des colonies, vous avez des familles d'araignées pour les observer ?
Alors on récupère, oui, au début de l'automne, des femelles dont qu'on fait pondre au laboratoire pour récupérer les cocons, qu'on va ensuite placer au frigidaire pour simuler la diapause hivernale.
Oui.
Et on va travailler sur ces jeunes araignées de janvier à avril-mai à peu près.
Nous y reviendrons, parce que l'aspect social des araignées, c'est assez passionnant également. Revenons à la toile, la plus formidable des inventions quand même, hein, de l'araignée. Vous le disiez, toutes les espèces d'araignées, que ce soit les mâles ou les femelles, utilisent la soie. Il y a différents types de soie qui sont produits selon les espèces.
Alors voilà, selon les différentes espèces, on va avoir entre 4 et 8 glandes qui vont produire de la soie, les glandes dites séricigènes. Et les araignées vont utiliser différents types de soie pour différents usages. Et même sur ces belles toiles géométriques que l'on voit là dans la rosée du matin, le matin,
ouais.
On va avoir différents types de soie selon la partie de la toile. La soie qui va être utilisée pour construire le cadre ne sera pas la même que celle utilisée pour les rayons, pour les spires. Donc à chaque usage, un type de soie bien spécifique.
Mais ça, c'est des connaissances quasi architecturales en fait de l'araignée ?
Alors, l'araignée va à la fois... La construction de la toile repose sur la combinaison de comportements innés de tissage et également la capacité des araignées de s'adapter aux variations environnementales en fonction des arbustes sur lesquels elles vont se développer, des courants d'air. Donc, elle va intégrer toute une série d'informations de l'environnement pour moduler la construction de la toile et avoir un piège qui soit le plus optimal possible.
Mais le fil de soie en lui-même, il est fabriqué comment, alors, dans l'araignée ?
Alors, dans ces glandes, la soie est à l'état liquide.
Oui.
Et ce moment de l'expulsion de la soie par des canaux que l'on appelle des filières, qu'on va avoir des échanges ioniques, une acidification, une perte en eau et des contraintes mécaniques qui vont faire que la soie va devenir de l'état liquide, va passer à l'état solide et acquérir toutes ses propriétés mécaniques.
Mais en une fraction de seconde ?
En une fraction de seconde.
Ça, c'est incroyable.
Oui.
Donc tout de suite, on a ce matériau extrêmement solide qui passe du liquide comme ça
à l'état solide. Et en fait, une des propriétés principales de la soie, c'est de combiner l'élasticité et la résistance. Et à ce titre, c'est un matériau qui est unique dans le monde du vivant.
Et qui inspire aussi les humains ? Parce qu'on essaie de recréer les mêmes conditions de solidité, au fond ?
Alors voilà, il y a un intérêt pour essayer de reproduire des fils de soie de façon artificielle. Alors, il y a le ver à soie qui est élevé depuis des millénaires, mais pour lequel la structure et la nature du fil est un peu différente de celle de l'araignée. Donc il y a différentes tentatives qui ont essayé de produire de la soie d'araignée de façon industrielle. Mais en raison de ces contraintes mécaniques associées au tissage de la file de soie, du fil de soie, c'est un peu difficile de reproduire ça de façon artificielle.
Raphaël Janson, vous êtes notre invité au carré. On va parler dans un instant des capacités étonnantes des araignées, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de l'émission.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
D'une façon générale, il fait bon vivre en société parce que c'est d'abord le groupe social dans son ensemble qui exploite le milieu, c'est le groupe social qui résiste à la pression du milieu. Pourquoi ne trouve-t-on d'araignées sociales que dans les régions tropicales à peu de choses près ? Probablement parce que les proies sont présentes en abondance toute l'année, il n'y a pas de saison froide. Et quand on sait que la vie sociale chez les araignées permet de capturer des proies qui sont plus de 700 fois plus lourdes que les araignées elles-mêmes, cela peut être un avantage considérable parce qu'une grosse proie est capable de nourrir facilement 200-300 individus.
La voix de ce monsieur est Bertrand Kraft. C'était en 1997 dans l'émission Nimbus sur France 3. Et vous le connaissez, cet individu, Raphaël Janson, vous avez travaillé avec lui ?
Voilà, ça a été un de mes co-directeurs de thèse au début de ma thèse, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années.
Ouais, et il a beaucoup travaillé sur la socialité des araignées ?
Alors lui-même avait réalisé sa thèse dans les années 70 sur les araignées sociales au Gabon.
Ouais.
Et c'était une des premières descriptions très complètes, très exhaustives de la biologie de ces espèces d'araignées qui sont tout à fait particulières et remarquables.
Ouais. Vous allez beaucoup sur le terrain d'ailleurs, vous ou pas ?
Alors on essaye d'aller régulièrement, on essaye d'aller en Guyane française pour travailler sur une autre espèce d'araignée sociale, pour travailler sur les comportements collectifs. Et on a pour projet d'aller en Afrique équatoriale, travailler sur la même espèce que celle sur laquelle Bertrand Kraft avait travaillé.
Donc au Gabon
Au Gabon, également. Au Cameroun.
Ouais.
Une espèce qui est proche de l'espèce sur laquelle on travaille en France hexagonale.
D'accord. C'était d'ailleurs le frère de Maurice Kraft, hein,
c'est ce le que vulcanologue,
vous me disiez hors antenne. L'aspect social alors, des araignées, vous le disiez, hein, c'est un des sujets qui vous intéresse aussi dans votre labo. C'est courant ou c'est rarissime, au contraire, chez les araignées, la vie en société ?
Alors, la vie en société à l'âge adulte, c'est un fait extrêmement rare chez les araignées. Parmi les 53 000 espèces décrites actuellement, seule une vingtaine vivent de façon sociale permanente.
Donc en groupe.
En groupe. Elles vont faire des toiles qui peuvent être parfois gigantesques, qui vont faire 20-30 mètres de long, qui vont contenir des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'individus.
Okay.
Et qui vont avoir pour caractéristique de maintenir une tolérance tout au long de la vie. Par contre, et ça, c'est un fait beaucoup plus méconnu de la biologie des araignées, toutes les espèces d'araignées, quelles qu'elles soient, même celles qui sont solitaires à l'âge adulte, présentent une phase sociale temporaire lors des premiers stades du développement. Quand les jeunes sortent du cocon maternel, ils sont tolérants et sociaux, avant de se disperser et mener une vie solitaire. Ouais. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment, au cours de l'évolution, cette socialité temporaire a pu se maintenir pour donner naissance à des araignées qui sont sociales de façon permanente.
C'est ça. Et comment ça part en vrille aussi au bout d'un moment, alors, c'est ça ?
Alors oui, ce qu'on a montré chez les espèces d'araignées solitaires, c'est que dès lors qu'on les isole socialement, elles deviennent très agressives et cannibales les unes envers les autres. Donc c'est le maintien du contact social au cours du développement qui serait l'élément clé responsable du maintien de la tolérance à l'âge adulte, et c'est ce sur quoi nos recherches s'intéressent.
Ouais, Bertrand Kraft le disait dans l'extrait, ces araignées sociales, on les trouve plutôt justement dans des latitudes comme la Guyane par exemple, à l'équateur.
Elles ne sont que tropicales, donc on en a en Amérique du Sud, on en a en Afrique, donc dans toutes les zones équatoriales, pour les raisons qu'a invoquées Bertrand Kraft, probablement cette disponibilité importante en nourriture et l'absence de saisonnalité marquée.
Ouais. Donc vous les observez, donc c'est-à-dire qu'il y a une petite vie de groupe, et à partir de quel moment précisément alors ça commence à éclater ?
Alors si on les laisse ensemble, si on les force à rester ensemble, elles restent tolérantes pendant des semaines. Mmh. Et dès lors qu'on les isole socialement du groupe, pour reproduire ce qui se passe dans la nature, vous parliez tout à l'heure du ballooning, le fait que ces araignées puissent se mettre sur la pointe des pieds pour pouvoir se disperser. Donc cette phase de dispersion va s'accompagner d'un isolement social qui va être responsable de l'initiation de l'agressivité.
Ouais, parce que sinon, il y a du cannibalisme dans la famille.
Alors, si on les élève à des stades avancés de développement, oui, le cannibalisme s'installe, mais dans des conditions naturelles, les araignées vont se disperser, s'éloigner, pour limiter les risques de cannibalisme.
Alors, il y a un autre mécanisme assez fascinant dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est la reproduction, qui carrément très sophistiqué chez les araignées. On voit le rôle des mâles avec les femelles et toutes les stratégies qui sont à l'œuvre pour essayer déjà de ne pas se faire bouffer par la femelle. Hein.
Alors oui, il y a trois cas de figure, grosso modo. Soit le mâle peut coexister paisiblement avec la femelle, donc tous les mâles ne se font pas cannibaliser.
Ouais.
Chez d'autres espèces, le mâle va volontairement se faire cannibaliser par la femelle.
Et pourquoi ?
Alors ça, il y aurait des avantages adaptatifs, ce qui s'assurait une plus grande part de paternité, dans la mesure où tant que la femelle est en train de cannibaliser le mâle, de le consommer, le mâle va pouvoir continuer de transférer des spermatozoïdes et avoir une paternité plus importante. Donc ça, ça a été montré.
Mais c'est un one-shot, quoi, finalement.
Exactement.
Ça ne peut se faire qu'une seule fois.
Ça ne se fait qu'une seule fois parce que le mâle a une probabilité relativement faible de trouver une autre partenaire sexuelle. Et pour dire les choses rapidement, il a tout à gagner à se sacrifier.
Ouais. Donc ça, ça a quand été il montré. A trouvé la bonne.
Quand il a trouvé la partenaire sexuelle ouais. de son choix. Et ça, ça a été montré notamment chez une espèce de veuve noire. Et on a d'autres espèces, notamment une espèce qu'on trouve en France hexagonale, la Pisor admirable, chez laquelle le mâle apporte un cadeau à la femelle, donc c'est une petite proie qui est entortillée de fil de soie.
Ouais.
La femelle, tout le temps où elle est en train de détortiller le fil de soie pour essayer de consommer le cadeau, le mâle va pouvoir copuler avant de s'échapper
sans
et de réduire
faire manger.
Ainsi les risques de cannibalisme.
C'est ça, c'est toujours la même idée finalement, la même ambition, c'est de ne pas se faire manger.
Voilà, pour les espèces chez lesquelles il y a du cannibalisme et où le mâle a une probabilité de se reproduire après le premier accouplement qui n'est pas nulle, effectivement ouais. il y a des stratégies qui sont parfois incroyables, qui ont été mises au point pour limiter les risques de cannibalisme.
Donc la femelle est très sensible aux offrandes.
La femelle est très sensible aux offrandes ouais. chez certaines espèces, oui.
Et alors vous racontez que les mâles peuvent aussi s'amuser, entre guillemets, à offrir de faux cadeaux, c'est ça ?
Alors en fait, parfois, donc, chez cette araignée, la Pisor admirable, les chercheurs ont ouvert le cocon de soie, le présent,
ouais.
et à l'intérieur, ce n'était pas une proie qui était comestible, c'était un bout de carcasse ou un petit bout d'herbe. Et l'interprétation qu'en ont fait les scientifiques, c'est que ça, simplement le fait de transporter un cadeau qui est lourd et volumineux permet à la femelle d'apprécier les qualités du mâle
ah.
et de déduire que c'est un bon reproducteur.
Peu importe donc ce qu'il y a dedans, l'emballage.
Exactement.
L'emballage prime. Elle vous raconte aussi que des mâles peuvent déposer des fils de soie sur la femelle pour réduire son agressivité. Mais ça, c'est pour la contraindre, en
Alors,
fait,
c'est ou... pour la contraindre un petit peu physiquement et mécaniquement. Et aussi, ces fils de soie sont enrobés de phéromones qui vont avoir pour rôle d'apaiser la femelle et de favoriser l'accouplement.
Donc ça fonctionne aussi.
Et ça fonctionne chez certaines
donc,
espèces.
Donc, il y a ces différents cas de figure qui ouais. sont liés à des espèces particulières.
Exactement. Et donc, la règle n'est pas le cannibalisme. Le ouais. cannibalisme existe, mais ce n'est pas systématique.
Le nom de veuve noire, il vient de là, d'ailleurs ?
Certainement, du fait que la femelle consomme le mâle.
Ouais. Donc, on a cette reproduction qui est tout à fait intéressante, que vous observez, vous aussi, en labo ou...
Alors, on a fait quelques processus de reproduction, mais généralement, on collecte les femelles qui sont déjà fécondées sur le terrain.
Ouais. Donc, l'histoire des cadeaux...
Alors, sur l'espèce sur laquelle on travaille, il n'y a pas de cadeau nuptial.
Il n'y a pas de cadeau, très bien. Les araignées possèdent également des capacités sensorielles, là aussi très sophistiquées, extrêmement intéressantes. La mécanoréception, qu'est-ce que c'est exactement, Raphaël Janssen ?
Alors, c'est la capacité des araignées à percevoir les stimulations mécaniques, notamment les stimulations vibratoires. Donc, elles peuvent percevoir à la fois les vibrations qui se propagent sur le substrat, sur le sol. Et donc, dans certains cas, le mâle, quand il s'approche de la femelle, va tambouriner sur le substrat. Et donc, ça va permettre à la femelle d'accepter la présence du mâle. Oui. Et ça permet également, dans d'autres types de cas, des petites soies qu'on appelle des trichobotries, de percevoir les courants d'air des proies en déplacement et favoriser leur interception par les araignées qui chassent soit à l'affût, soit sur une toile.
Oui. Qu'est-ce qu'il fait, pardon, en tambourinant, là ?
En fait, c'est un code. Le mâle s'approche de la femelle, tambourine, et en fait c'est un signal pour indiquer à la femelle que s'approche un mâle qui est en phase de reproduction, et que ça participe à la phase d'acceptation du mâle par la femelle.
Donc il s'annonce, quoi.
Exactement.
Ouais. Et alors les poils, on le disait aussi tout à l'heure, sont extrêmement sensibles, et ça c'est aussi une des propriétés finalement qui permet d'affiner les sens de l'araignée.
Voilà. Tous les poils que recouvrent les corps des araignées ont plusieurs fonctions. Donc, comme on vient de le dire, cette fonction de mécanoréception leur permettant de détecter les vibrations qui se propagent dans l'air ou sur le substrat, mais également les composés phéromonaux. Donc, l'araignée va toucher soit un partenaire sexuel, soit un fil de soie, soit une proie, ce qui va lui permettre d'identifier la nature de l'objet avec lequel elle est en contact, et également de percevoir certains composés volatiles, donc de percevoir des odeurs. Donc, tous ces poils qui recouvrent le corps des araignées, ce sont les organes sensoriels des araignées.
Et la communication chimique aussi se fait chez les araignées pour, pareil, même chose, reconnaissance des congénères, c'est toujours le même principe.
Oui, ça leur permet de reconnaître les individus qui sont de la même espèce et les partenaires sexuels au moment de l'accouplement.
Ouais. Alors les yeux, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas le même nombre d'yeux selon les espèces
Alors en général, c'est 8 yeux.
Oui, mais ça peut varier.
On peut en avoir 6 et certaines espèces, qui sont des espèces cavernicoles, ont perdu l'usage total de la vue et donc plus d'yeux.
Ouais.
Et donc, il y a généralement 4 paires d'yeux qui ont des fonctions différentes et qui vont permettre, dans certains cas, aux araignées de voir en couleur et d'avoir une acuité visuelle qui est vraiment remarquable.
Les araignées, les femelles, très douées aussi pour les soins maternels. Là aussi, la soie intervient dans l'élevage des petits ou pas ?
Alors, elle va intervenir pour la protection des œufs, donc au moment de du cocon, donc cette couche de soie qui enrobe les œufs. Et ensuite, les mères, chez certaines espèces, peuvent prodiguer des soins qui sont particulièrement remarquables, qui vont aller de la capture de proies qu'elles vont donner aux jeunes, à la régurgitation, et dans les cas les plus ultimes, la mère va se sacrifier.
Le sacrifice de la maman.
Ouais. Et se faire cannibaliser par ses jeunes.
Et pourquoi, pareil, c'est un processus évolutif intéressant pour la femelle?
Ce qu'on peut supposer, c'est que plutôt que de ne pas se reproduire, autant donner les nutriments à la descendance, et c'est une façon d'investir dans la descendance et d'augmenter les chances de survie des jeunes araignées qu'elle aura pondues.
Et alors, elles peuvent aussi fabriquer du lait.
Alors oui,
ça, je me souviens, on en avait parlé dans La Tête au Carré, d'ailleurs, c'est une équipe chinoise qui avait découvert ça, qu'effectivement, certaines femelles pouvaient donner du lait à leurs petits.
Nous, les chercheurs ont appelé ça du lait par analogie, mais ce serait plutôt des œufs qui se seraient liquéfiés et qui seraient produits au niveau de l'organe génital de la femelle, et les jeunes viendraient consommer directement ce lait à la source.
Ouais. Raphaël Janson, vous restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous de la part des auditeurs et auditrices qui arrivent sur la page de La Terre au Carré. On se retrouve dans un instant.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Allez, regarde cette bestiole. Certaines araignées changent de couleur pour se confondre avec leur environnement.
Les araignées de ce laboratoire.
C'est un réflexe défensif.
Peter, qui pourrait avoir envie de savoir ça?
Tout le monde?
C'est dégoûtant.
Elles sont vicieuses, ces saletés.
Je sais, mais je les aime.
Moi aussi. Tu sais, les araignées peuvent changer de couleur pour se confondre avec leur environnement.
C'est vrai?
Oui, c'est un réflexe défensif.
Un extrait de Spider-Man en 2002, la version de Sam Raimi à l'instant pour évoquer avec vous cet animal que vous connaissez bien, Raphaël Janson, qui fait l'objet de votre ouvrage Dans la tête d'une araignée. C'est aux éditions Humaine Science. On aimerait évidemment parler un peu d'écologie avec vous. À quoi ça ressemblerait un monde sans araignées? On peut imaginer un petit peu ou pas?
Ah, ça serait un monde dans lequel proliféraient certainement beaucoup de pestes, d'insectes. Alors, un chiffre qui est vraiment incroyable chez les araignées, c'est qu'il a été estimé qu'elles consommaient annuellement sur la planète entre 400 et 800 millions de tonnes de proies.
Ça fait quoi alors?
Alors, dit comme ça, voilà, c'est difficile d'avoir une image. C'est une à deux fois la masse de l'humanité.
Chaque année?
Chaque année. C'est plus que la quantité de viande ou poisson consommée par les humains, ou encore plus que la quantité de proies ingurgitées par les oiseaux. Donc, c'est un des prédateurs des écosystèmes terrestres le plus important et joue un rôle déterminant dans la régulation des écosystèmes.
Ouais, donc, il faut évidemment, grâce à ça, être de bonnes chasseuses, ce qu'elles sont évidemment, pour avoir des stratégies de prédation qui d'ailleurs ont évolué aussi, c'est ce que vous expliquez, sur les milliers d'années.
Oui, il y a celles qui chassent avec une toile et celles qui chassent sans toile.
Ouais. Donc il y a un rôle écologique majeur.
Elles jouent un rôle écologique majeur. à la fois en tant que prédatrices, mais également en termes de proie pour d'autres animaux comme les oiseaux. Donc elles font partie des chaînes trophiques au même titre que toute espèce animale.
Alors justement, quelles sont leurs proies privilégiées? Alors évidemment, il y a beaucoup d'espèces.
Les insectes.
Ça change.
Les insectes, d'autres arthropodes, d'autres araignées ou les insectes.
Et elles deviennent elles-mêmes proies avec quels animaux?
Avec les oiseaux, avec des petits reptiles, mais essentiellement les oiseaux.
Donc ça veut dire qu'elles ont un rôle de régulation extrêmement important aujourd'hui.
Elles ont un rôle de régulation extrêmement important. Et par exemple, des jeunes mésanges, au cours de leur début de leur vie, vont consommer jusqu'à 75% de leur régime alimentaire fait d'araignées.
Ouais.
Donc vraiment, elles sont importantes à tous les niveaux du vivant.
Ouais. Mangeuses de moustiques.
Elles mangent les moustiques. Hein.
C'est pour ça qu'il faut les laisser, d'ailleurs, quand on en a chez soi, des araignées.
Alors
ou pas
voilà, moi je pense qu'il faut vraiment les laisser et qu'on accepte que la présence d'une araignée ou d'une toile d'araignée dans une maison n'est pas signe de saleté. Et qu'on peut tout à fait coexister avec les araignées, laisser les toiles qui sont encore habitées pour qu'elles participent à la régulation et à la consommation des moustiques.
Ça peut être un anti-moustique pas cher, naturel pour la maison. Un lien entre la disparition des populations et l'augmentation des populations d'araignées aussi, ça on peut en dire quelque chose ou pas? Parce qu'on voit un effondrement des populations d'oiseaux. Est-ce que c'est en faveur justement des araignées ou pas?
Alors je ne sais pas si c'est en faveur des araignées, mais il y a cet effondrement général de la biodiversité, avec par exemple ce déclin aussi des populations d'insectes qui vont avoir comme conséquence d'entraîner un déclin des populations d'araignées dans la mesure où il y a moins de proies qui sont disponibles pour les araignées.
Est-ce qu'elles sont menacées, les araignées aujourd'hui, comme beaucoup d'animaux?
Alors oui, il est estimé qu'en France hexagonale, environ 10% des espèces sont menacées d'extinction pour différentes raisons, l'urbanisation galopante, le réchauffement climatique, l'assèchement des zones humides. Donc il y a toute une série de causes qui menacent les araignées, et même sous nos latitudes ici en France.
Et toutes les espèces, a priori, sont concernées ou quand même il faut rester mesuré là-dessus?
Alors il faut certainement rester mesuré, mais il y a quand même une menace qui pèse sur les araignées, sur laquelle il faut qu'on veille collectivement.
Ouais. Il y a du trafic aussi.
Oui.
Ça, je l'ignorais d'ailleurs. Ouais. Trafic illégal donc autour des araignées. Oui. Sur quel type d'espèces les plus spectaculaires peut-être?
Alors généralement les grosses mygales. Hein. Après, il y a d'autres espèces qui sont colorées, qui sont très jolies, qui sont aussi collectées par les collectionneurs pour les élever chez eux. Et il y a certains pays, donc le Brésil ou même la France, qui au niveau de la Guyane française a mis en place des arrêtés préfectoraux, pour limiter la collecte d'araignées, pour préserver les populations locales.
Ouais. Les mygales d'ailleurs, elles sont dangereuses ou pas? Parce que c'est celles qui sont les plus impressionnantes, mais quelles sont les plus grosses d'ailleurs dans la nature aujourd'hui?
La plus grosse, c'est une mygale qui s'appelle Theraphosa blondii, qu'on va trouver en Guyane française ou au Brésil, qui va faire une vingtaine de centimètres avec les pattes.
Ah oui, quand même. Ouais.
Donc, dont la morsure peut être douloureuse, mais pas du tout létale ni fatale. Donc les araignées, ça va aller de cette araignée gigantesque à des araignées qui sont beaucoup, beaucoup plus petites. Et on estime qu'en France hexagonale, plus de la moitié des espèces d'araignées font moins d'un demi-centimètre.
Okay.
Donc l'araignée n'est pas forcément grosse, elle peut être toute petite.
Et cette grosse araignée guyanaise, elle est solitaire plutôt?
Oui, elle est solitaire, oui.
Elle vit où d'ailleurs?
Elle vit dans des terriers, en forêt. Donc elle va creuser des terriers, puis elle va sortir de son terrier pour pouvoir chasser les différentes proies.
Et elle, pareil, ce sont plutôt des insectes dont elle se nourrit?
Elle peut chasser aussi des petits reptiles, des lézards ou des choses comme ça qui vont passer à proximité de son terrier.
Ouais. Alors ce commerce illégal, il a des conséquences aussi sur l'introduction des espèces invasives, c'est ça?
Oui.
Ça a été prouvé?
Alors oui, il y a plusieurs espèces qui vont pouvoir parfois, alors que ce soit chez les araignées ou chez d'autres espèces, être relâchées dans la nature par les collectionneurs, ce qui va avoir des conséquences évidemment préjudiciables sur les écosystèmes locaux.
Oui.
Mais il y a certaines espèces d'araignées, notamment une petite espèce à laquelle on ne pense pas forcément, qui est la folk, qui est cette espèce qu'on voit dans les habitations, qu'on a quasiment toutes et tous dans nos appartements ou dans nos maisons, avec des pattes très fines, un corps très fin. Et c'est une espèce envahissante qui est arrivée d'Asie du Sud-Est il y a 200 ou 300 ans et qui a colonisé l'ensemble de nos habitations.
Et qui pose quel type de problème?
Aucun.
Aucun, oui.
Aucun.
Et aux États-Unis aussi, on a envoyé, je crois, des araignées françaises.
Alors voilà, oui, il y a une espèce d'araignée qu'on appelle la tégénaire qui a été importée d'Europe occidentale vers les États-Unis. Donc on n'est pas les seuls bénéficiaires d'espèces envahissantes. On participe aussi à ce trafic ou à cette contamination dans d'autres directions.
Raphaël Janson, il y a beaucoup de questions pour vous de la part des auditeurs et auditrices. On y va tout de suite. Agnès témoigne, petite et adolescente, dit-elle, j'étais arachnophobe et puis je suis partie en Guyane et mon référentiel a beaucoup changé, bah oui, avec les araignées sociales bleues de Guyane qui sont fascinantes. Alors, est-ce que c'est les grosses justement dont on parlait à l'instant ou pas?
Non,
forcément.
Ce sont les araignées dont on parlait qui peuvent faire des toiles, qui peuvent faire jusqu'à 20 ou 30 mètres de longueur et qui sont généralement des araignées de petite taille, les araignées sociales.
Ouais. Donc on peut être arachnophobe et puis
se guérir.
Et se guérir, ouais. Vous croisez beaucoup de gens que vous aidez justement à mieux vivre avec les araignées ou pas?
Alors, ce que j'essaye de dire simplement, c'est factuellement que les araignées ne représentent aucun risque et donc d'accepter de vivre avec et d'apprendre à les observer.
Guillaume demande, est-il vrai que si les araignées avaient la taille d'un gros rat, elles seraient l'espèce dominante ou est-ce une légende urbaine?
Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est une légende urbaine. En tout cas, aucune étude ne va dans ce sens-là.
Ouais. Isabelle aimerait bien savoir pourquoi les araignées mordent les humains. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ça se passe ?
Alors, les morsures d'araignées sont des morsures de type défensif. C'est-à-dire que l'araignée va mordre si elle est contrainte. Donc, soit si on la saisit lors de la manipulation, ou si par inadvertance, elle est coincée dans une chaussure ou dans un linge. C'est le seul moment où elle va mordre pour se défendre.
Donc, c'est vraiment la défense, oui. Si Denis, la psychanalyste, tente d'apporter des pistes d'explication aux phobies en général, et donc en particulier à la phobie des araignées, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je sais pas.
Ça vous intéresse pas beaucoup ?
Non, mais bon, il faut qu'on, collectivement, qu'on fasse attention à lutter contre cette arachnophobie et à objectiver les craintes, qui sont vraiment infimes.
Et vous mettez la psychanalyse de côté, voilà. J'ai bien compris. Didier demande, pourrait-on donner une idée de la solidité du fil de soie d'araignée ? Alors pareil, ça dépend aussi des espèces.
Alors ça va dépendre des espèces, ça va dépendre du type de soie tissée par l'araignée en question. Mais généralement, en fait, comme on le disait précédemment, aucun autre matériau sur la planète n'allie une telle résistance et une telle élasticité.
Oui. Alors, il y a d'ailleurs une autre question intéressante que je me posais aussi, tout comme Gérard qui nous écrit. Comment peuvent-elles produire des toiles aussi grandes alors que leurs corps sont de petite taille, tout comme leurs glandes qui produisent le fameux liquide pour produire la soie dont vous parliez tout à l'heure, doivent-elles s'arrêter, demande Gérard, de temps en temps pour régénérer le stock de ce liquide ?
Alors, la régénération du stock de soie va prendre un certain temps. Il ne faut pas oublier que les fils de soie sont extrêmement fins, c'est de l'ordre du millimètre. De quelques micromètres. Donc même quand elle tisse une toile, si on impactait la toile de façon complète, le volume serait quand même beaucoup plus faible que ce qui est contenu dans une glande sériciégène.
Donc pas besoin de faire de pause, c'est ce que
vous
dites.
Pas besoin de faire de pause pour tisser la toile.
Ouais. Laurence témoigne, j'ai un terrain allergique très réactif d'une manière générale, et puis un jour je m'allongeais sur mon canapé pour faire une micro-sieste, je me suis réveillé avec le bras qui avait triplé de volume et les traces d'une morsure d'araignée que j'ai retrouvée ensuite en soulevant un des coussins, j'avais dû la déranger, mais depuis je regarde vraiment précisément là où je m'allonge, de peur de me faire mordre de nouveau. Christine Rollard, qui est souvent venue dans cette émission spécialisée des araignées, elle bat souvent en brèche cette idée-là,
la
morsure.
Dans beaucoup de cas, on a des réactions allergiques ou des bouffioles qui peuvent apparaître sur les membres, mais qui ne sont pas dues à des araignées, pour lesquels il peut y avoir toute une série d'autres causes.
Ouais.
Et je pense qu'on incrimine un peu trop facilement les araignées dès lors qu'on a une éruption cutanée.
C'est ça. À quoi servent vos recherches sur la socialité des araignées, demande Marie. Socialité juvénile, d'ailleurs, vous précisiez. Hein.
Alors, c'est de la recherche purement fondamentale, avec pour objectif de comprendre comment, au cours de l'évolution, ces espèces qui sont réputées si cannibales et agressives à l'âge adulte ont pu maintenir une tolérance et vivre de façon sociale permanente.
Et vous avez la réponse quand même ?
Pas encore.
Pas encore, donc vous continuez.
On continue de travailler.
Ouais. Y a-t-il des araignées dangereuses en France métropolitaine ? Demande Blanche.
Non, il n'y a pas d'espèce dangereuse. Il y a une espèce qui est proche de la veuve noire qui vit en Corse. Mais à nouveau, les risques d'envenimation sévère sont extrêmement restreints.
Oui.
Donc pas de crainte à avoir.
Comment réintroduire des araignées dans le jardin, demande Jean-Paul. Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs d'y penser ou pas ?
Alors ça dépend des espèces auxquelles on va penser. Mais déjà, si au lieu de les réintroduire, on essayait de ne pas les éliminer, ça serait déjà un premier pas.
Ouais. Emma témoigne aussi en disant « Un petit lézard s'est pris dans la toile d'une grosse araignée de notre garage. Est-il susceptible d'être mangé par cette araignée ?»
Oui, il y a certaines espèces d'araignées qui vont aussi manger des serpents, par exemple des petits serpents, qui vont se prendre dans les fils de soie. Oui.
Mais ils vont tout manger ?
Ils vont manger une partie de...
Ça va être en plusieurs étapes.
On ne peut pas consommer l'intégralité du petit lézard ou du serpent, mais en tout cas, elles peuvent mordre et consommer des proies de cette taille-là.
Et puis enfin, est-ce que le cannibalisme lors de l'accouplement existait pour toutes les espèces d'araignées ou pas ?
Non, pas chez
demande
toutes les espèces.
Demande Agnès. Non, vous le confirmez. Merci beaucoup, Raphaël
Merci.
Janson. Il y a eu encore plein de questions à vous poser autour de cet animal. J'invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent à découvrir votre ouvrage. Ça s'appelle « Dans la tête d'une araignée ». Vous en êtes l'auteur et c'est publié chez Humaine Science. Merci beaucoup à Jean-Philippe Verret qui a préparé aujourd'hui ce dossier. À bientôt.
Merci.